Variations en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel. Variation en noir dans Variation, le premier vendredi du mois. Guy Le Polarski au micro, vous écoutez Radio PFM et vous avez rendez-vous avec les littératures policières. Variation en noir, c'est une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, en particulier avec son ex-président Hervé Delouche, qui est avec nous au téléphone depuis la capitale. Hervé, bonjour.
Bien, bonjour Guy.
Il est bien là. Et au sommaire de ce Variation en noir du mois de février 2017, un article du Code pénal, le numéro 353 pour être précis, pour le dernier roman de Tanguy Vielle, précisément intitulé Article 353 du Code pénal, et c'est aux éditions de Minuit. Comme annoncé lors de notre précédente émission, nous reviendrons sur une nouvelle de Russell Banks à l'occasion de la sortie en poche Babel Actes Sud du recueil à un membre permanent de la famille. Et cette incursion outre-Atlantique nous amènera enfin à évoquer les petites nouveautés que nous annoncent les éditions Gallmeister. Hervé, donc, nous avions envie de parler du dernier roman de Tanguy Vielle, article 353 du Code pénal aux éditions de Minuit. Toujours des titres assez directs chez Tanguy Vielle. Il y avait eu l'absolue perfection du crime, insoupçonnable, Paris-Brest. Paris-Brest, c'est intéressant puisque... Nous allons le voir, article 353 du Code pénal se déroule à Brest. Un mot
pour... intéressant parce que c'est que juste avant, Tanguy Vielle nous avait emmené dans son précédent roman, si je ne me trompe pas, aux États-Unis.
Oui, la disparition de Jim Sullivan.
Voilà, alors où il y avait une tonalité quand même particulièrement assez humoristique dès le départ, puisqu'il disait... là-dessus, les Américains ont un avantage troublant sur nous, même quand ils placent l'action dans le Kentucky, au milieu des élevages de poulets et des champs de maïs, ils parviennent à faire un roman international. Et donc, ils s'étaient décidés à nous offrir une espèce de vrai faux polar, disons, des États-Unis, nourri de lecture et évidemment fantasmé. Voilà. Et là... retour à Brest.
Retour à Brest. Un mot aussi avant de parler du livre en lui-même. Édition de Minuit, c'est quand même assez rare que ce soit dans 813, dans la revue 813, ou dans Variation Noir, ou dans Noir c'est Noir, l'on parle de livres édités aux éditions de Minuit.
Ouais, enfin moi je pense quand même que... je crois d'ailleurs que... évidemment, ça nous ramène un peu en arrière, mais Manchette le mentionnait dans ses chroniques, puisqu'il avait dit grand bien des premiers romans Cherokee, par exemple, de Jean Echenoz.
Oui.
Et je pense qu'Echenoz étant lui-même un grand lecteur de Manchette, les deux étaient amis, et par ailleurs un grand lecteur de Dashiell Hammett, bien avant. Et je pense qu'il y a, chez des auteurs, pas évidemment, c'est pas le catalogue Minuit, loin de là, mais qu'il y a... non pas non plus une école, mais qu'il y a des auteurs comme Jean Echenoz pour certains de ses livres, comme Yves Ravet, dont on a déjà parlé,
tout à fait.
Un notaire peu ordinaire, et d'autres livres, et Tanguy Vielle, qui, en tout cas, sont nourris et empruntent au code du roman noir. Ça me paraît certain, donc ils ont, avec chacun leur voix, ils ont évidemment toute leur place pour nous, qui sommes plutôt sans frontières.
Alors, tu parles du code du...
J'espère que tu es d'accord.
Je suis complètement d'accord. Je pensais effectivement à Echenoz et j'avais oublié Yves Ravet, mais il y a comme ça quelques auteurs effectivement que l'on suit aux éditions de Minuit. Alors, tu parlais du code du roman noir, donc ici, c'est du code pénal dont il s'agit dans ce roman. Enfin, non. Soyons quand même clairs d'entrée, ce n'est pas un roman de procédure judiciaire. C'est un, c'est un roman qui, en fin de compte, très social, et qui fait, le mois dernier, hein, janvier, nous parlions des nouvelles de Yvon Coquil, Met à la mer, qui se situait aussi, qui se situe à Brest, un regard très, très social. En fin de compte, c'est quelque part, c'est un prolongement de cette lecture. Ça pourrait être une nouvelle un peu développée de ce recueil, puisqu'on est mais dans le monde professionnel des industries de construction navale de Brest, avec des personnes qui se retrouvent au chômage suite à la fermeture de l'Arsenal. Donc vraiment dans la foulée du livre dont on a parlé le mois dernier.
Ah, complètement, on n'avait pas prévu cela, mais effectivement, il y a un prolongement. Oui, ça, tout à fait.
Donc, pour comment dire, indiquer à nos auditrices, nos auditeurs, l'histoire très rapidement. Donc, il s'agit d'un projet immobilier de construction d'un complexe touristique qui devrait permettre à ce coin de Bretagne, ce quartier de Brest, de redécouvrir une forme de prospérité qui avait perdu suite à la fermeture donc des chantiers, et donc avec la possibilité pour des personnes du secteur d'investir leur prime de licenciement.
Oui, c'est-à-dire de l'idée de créer ce qui est évidemment en général à laquelle aucun Brestois n'aurait jamais pensé, qui est d'édifier une station balnéaire, un parc résidentiel ça va être le cas d'ailleurs du protagoniste principal de ce roman, Martial Kermer, un ouvrier qui a touché sa prime, qui va être d'investir, si on peut dire, dans cette providence, si l'on peut dire aussi, que serait l'acquisition d'un appartement avec vue sur la mer. Voilà.
Exactement, une terrasse et vue sur la mer. Alors bien entendu, bon, on comprend très vite, on ne dévoilera rien en disant qu'il s'agit d'une escroquerie, puisque le roman se situe après les faits, et donc la disparition du promoteur Laznek, qui tombe à l'eau d'un bateau piloté par Martial Kermer, Hervé.
Oui, on sait un peu d'entrée de jeu. Voilà, c'est un procédé. C'est pas une enquête policière justement ni juridique. On sait d'entrée de jeu ce qui s'est passé et qui est mort et qui l'a fait, disons. Mais voilà, et après, le livre se présente sous la forme d'une sorte de face à face entre le juge et Martial Kermer, avec des, disons, un récit de Martial Kermer qui est nourri de flashbacks sur comment en est-on arrivé là, disons.
Voilà, à la fois sur sa situation personnelle, divorce, il garde son fils,
installation,
voilà. Et puis à la fois aussi sur l'aspect effectivement social et collectif. La particularité quand même de Tanguy Viel, alors on va pas dire les éditions de Minuit, mais il y a quand même une forme, un style assez reconnaissable et qui joue alors de la fausse naïveté, mais bon, ce n'est vraiment pas de la naïveté. On a envie de dire qu'il se mêle dans ce roman un bon sens terrien pour un roman de la mer, en fin de compte, puisqu'il y a quand même un regard, encore une fois, sur la mer, mais cette mer qui pour beaucoup, n'est pas une possibilité de s'évader. C'est simplement le cadre de leur quotidien.
C'est le cadre de leur quotidien, c'est le cadre du travail, et effectivement, il y a un peu ce rêve qui va faire que Martial Kermer va tomber tête la première dans cette escroquerie menée par Laznek, celui qui vient d'ailleurs et qui va devenir le, qui est le porteur de ce projet Providence et qui évidemment est un escroc de haut vol, qui va réussir à faire tenir cette chimère pendant 6 ans, je crois. Et effectivement, un peu cette, ce rêve d'un jour, puisqu'on n'a plus de travail, de pouvoir être au balcon et de regarder la mer qui jusque-là n'a pas vraiment été un spectacle. Mais il y a une chose par rapport à ce que tu disais, c'est-à-dire que ce livre, à mon avis, il y a deux côtés qui sont... c'est à la fois un roman noir qui montre complètement dans la tradition du roman noir, parce qu'on est face à cette combinaison affaires, politique, crime, voir comment le maire lui-même, le goff, a été mêlé à cette affaire. Et c'est un roman qui démonte un engrenage, et donc évidemment, c'est plutôt là qu'est, si on peut parler de ça, le suspense des choses, mais se mêle à ça... une réappropriation du récit par Kermer, c'est-à-dire par un sang grave, et ça c'est un peu un tour de force, c'est-à-dire que et qui justement justifie cette forme que prend le roman et son style. Par exemple, à un moment, le juge lui dit: toute cette histoire, c'est d'abord la vôtre, et il répond: oui, bien sûr, la mienne. Mais alors, laissez-moi la raconter comme je veux, qu'elle soit comme une rivière sauvage qui sort quelquefois de son lit, parce que je n'ai pas comme vous l'attirail du savoir ni des lois, et parce qu'en la racontant à ma manière, je ne sais pas, ça me fait quelque chose de doux au cœur, comme si je flottais ou quelque chose comme ça, peut-être comme si rien n'était jamais arrivé, ou même ou surtout comme si là, tant que je parle, tant que je n'ai pas fini de parler, alors oui, voilà, ici même, devant vous, il ne peut rien m'arriver, comme si pour la première fois je suspendais la cascade de catastrophes qui a l'air de m'être tombée dessus sans relâche, comme des dominos que j'aurais installés moi-même patiemment pendant des années et qui s'affaisseraient les uns sur les autres sans crier gare.
Oui, donc c'est Martial Kerber qui s'adresse à son juge, et donc on s'aperçoit rapidement que derrière ce ton, cette fausse naïveté dont je parlais, le regard est acéré sur l'avidité, hein, sur le délabrement social, et sur la justice en fin de compte. Et on a le sentiment que Tanguy Viel rêve d'une justice juste, et en particulier dans l'article donc c'est la 353, et donc c'est un, je disais que c'est pas un roman de procédure judiciaire, loin de là, mais c'est quand même un roman qui interpelle, Hervé, je sais pas si tu as ressenti comme ça, sur la question de la justice. Et et moi ça m'a fait penser à une affaire dont on a parlé il y a peu de temps, la grâce présidentielle d'une femme qui avait tué son mari, qui lui faisait vivre l'enfer, et d'ailleurs
sauvage, je crois, c'est cela.
Oui. Et une grâce qui avait suscité du remous dans les milieux judiciaires, et c'est vrai, comment aborder cette question de la justice, quelqu'un qui tue, en plus on n'est pas face à un cas de légitime défense, mais c'est quelqu'un qui tue une personne qui lui fait vivre un enfer.
La question qui est au centre de cela, mais qui est une vieille question, c'est que est-ce que je ne répondrai pas à l'antenne, est-ce que le plus grand criminel n'est pas l'Aznec qui a brisé des rêves et des hommes? Et de même que pour je crois que c'est Brecht qui disait quel est le plus grand criminel, celui qui dévalise une banque ou celui qui l'a bâti? Point d'interrogation.
on laisse le point d'interrogation, en tout cas c'est oui. Résumé un petit peu ce qui se dégage de ce livre. Enfin, moi quand j'ai refermé, vraiment j'ai été plongé dans ces questions, et je trouvais que Tanguy Viel l'a fait de manière très nous amène sur ce terrain de manière très très pertinente.
Il le fait très subtilement, tout à fait, jusqu'à une fin qui est très intéressante, qu'on ne dévoilera pas, mais en tout cas, pas besoin d'aller vous précipiter vers un code pénal si au hasard vous en aviez un. L'article en question est vers la fin du livre, je crois.
Oui, exactement. Hein, donc,
Mais c'est particulièrement, il y a encore une chose, après la disparition de Jim Sullivan, ce retour à Brest de l'article 353, c'est aussi quand même la marque d'un grand talent, parce que autant il y avait un côté... là aussi c'est jouissif, mais jouissif et humoristique dans la disparition, autant là on est sur un mode beaucoup plus grave et en même temps avec toujours un plaisir du texte. Ça veut dire aussi que Tanguy Viel est capable de jouer sur des registres très différents et que c'est sacrément réussi, quoi.
Voilà un panneau qui a été installé à l'entrée du parc. Ici, bientôt, le Saint-Tropez du Finistère.
Il fallait y penser.
Écoute, Hervé, pour une petite pause musicale, j'ai repris une chanson d'un Brestois que nous avons commencé à écouter le mois dernier à propos d'Yvon Coquille. Comme le morceau a été coupé assez rapidement, mais cette fois, on se laisse un peu plus de temps pour l'écouter.
Elle fait un pas, elle s'avance, elle me dit au revoir. Je pourrais encore, je pense, lui dire à plus tard. Si elle se rendait à l'évidence que tout nous sépare, qu'il ne faut pas me faire confiance, que je n'ai rien à voir avec ses belles espérances, ni maintenant ni plus tard. Mais je pourrais encore, je pense, lui payer un coup à boire. Tout recommence. Rien ne se répare quand les cœurs sont en faïence. C'est foutu, c'est trop tard. Mais sur le pont de recouvrance, elle est si belle à voir que je pourrais encore, je pense, m'arrêter un jour de boire pour l'embrasser sans offense, sans migraine, sans cafard. Mais rien ne se passe comme je le pense quand l'envie me prend de boire. Tout recommence, mais rien ne se répare. Quand les cœurs sont en faïence, c'est foutu, c'est trop tard. Offenses, pardonne-moi si je m'égare, je ne sais plus dans quel sens se trouvait le jambard. Mais rends-toi l'évidence que tout nous sépare, qu'il ne faut pas me faire confiance, que je n'ai rien à voir. Merde, c'est pas de chance, on n'a plus rien à boire. Moi je pensais qu'à recouvrance, ça fermait un peu plus tard. Moi je pensais qu'à recouvrance, on trouvait toujours à boire. Moi je pensais qu'à recouvrance, on trouvait toujours à boire. À boire. À boire. À boire. Rien ne se répare quand les cœurs sont en faïence. C'est foutu, c'est trop tard, tout recommence. Mais rien ne se répare quand les cœurs sont en faïence. C'est foutu, c'est trop tard, tout recommence. Mais rien ne se répare quand les cœurs sont en faïence. C'est foutu, c'est trop tard, tout recommence. Mais rien ne se répare quand les cœurs sont en faïence. C'est foutu.
Miossec dans Variation Noire sur Radio PFM. Miossec, Hervé, une chanson recouvrance, un pont de célèbre pont de Brest où circule, il arrive à Martial Kermeur de circuler, et un Martial Kermeur lui-même au cœur en faïence.
Oui, et ces alcools dont parle Mieux Sec, ils sont notamment présents dans une scène entre particulièrement éclairante du livre entre Martial Kermer et Le Goff, le maire. Et ça m'amène à dire parce que qu'il y a aussi dans ça, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, il y a aussi quelques des pages particulièrement touchantes et dures et justes sur le rapport père-fils entre Martial et son fils Erwan, qui sont voilà, qui sont aussi à mon avis un grand moment de ce livre.
Donc Hervé, nous avions eu envie de parler de Russell Banks. Là aussi, c'est pas forcément quelqu'un dont il est souvent question dans la revue 813 ou dans Variations noires.
Oui, même si les parentés sont. Mais voilà, en tout cas avec le roman noir, sont évidentes. Mais oui.
Voilà, et donc moi j'ai lu le dernier recueil, hein, Membre permanent de la famille. Enfin, c'est pas son dernier recueil, il était sorti en grand format il y a 2 ans peut-être, et là il vient d'être édité en poche. Et j'étais emballé par la première nouvelle intitulée Ancien Marine, et j'ai trouvé que c'était pour moi une nouvelle exemplaire d'un point de vue littérature noire. C'est pour ça que je t'en ai parlé pour avoir ton avis, ton retour sur mon ressenti.
Et tu as eu bien raison, parce que quelque part Russell Banks a écrit Russell Banks, qui n'avait pas donné de nouvelles, je parle du il avait depuis 2001, il n'avait pas écrit de nouvelles, il avait s'était succédé à un certain nombre de romans, en général des romans assez gros. Et il a dit quelque part, la nouvelle est plus maîtrisée par l'auteur que ne l'est un roman. Et effectivement, cette nouvelle qui ouvre le recueil et qui donne son nom, Un membre permanent de la famille, c'est une... voilà, d'une... Je ne sais pas, il y a 20-30 pages et c'est un... Enfin, comment dire ça, c'est totalement ciselé, il n'y a rien à ajouter, retrancher, c'est une... C'est percutant au possible. Je te laisse en dire 2 mots.
Oui, tu as raison de dire que le titre du recueil porte le titre des nouvelles, Un membre permanent de la famille, mais il y a une question effectivement de famille. Donc c'est l'histoire de Connie, qui se désigne comme le retraité, bien qu'il n'ait jamais pris officiellement de retraite. Il vivote d'aide sociale, d'indemnité et de chômage, en passe de s'arrêter bientôt. Il faut savoir que Connie a 3 fils, il rejoint parfois un de ses 3 fils, Jack, qui est officier de police. Il le rejoint dans un bistrot où ils prennent ensemble leur petit déjeuner. Il y a un autre fils qui est aussi policier. Le troisième est gardien de prison, il me semble. Et donc, quand on le découvre, Connie va se mettre en route pour Lake Placid. On est aux États-Unis, dans les montagnes, un coin montagneux des États-Unis. Et voilà. Donc, et on apprend aussi, bien sûr, très vite que Connie est un ancien marine. On dit bien ancien marine parce que il explique on n'est jamais un ex-marine, hein, oui. Explique-t-il à son fils, une manière de lui dire qu'il peut toujours se débrouiller seul aussi.
Oui, tout à fait. Il y a aussi une chose qui est intéressante parce que ça fait un lien avec le roman de Tanguy Viel, c'est-à-dire que dès le départ, on apprend qu'en fait, il travaillait dans pour une entreprise de vente aux enchères, Connie, je crois.
C'est ça.
Et son employeur l'a libéré de ses attaches. Et Russell Banks s'écrit comme s'il était un ballon gonflé à l'hélium au bout d'une ficelle.
Voilà.
C'est-à-dire ces gens qu'on, en gros, ces gens qu'on a pris et qu'on jette, quoi. Voilà. Et effectivement, de ce passé de marine, Bacconi a gardé, j'allais dire, une arme, des réflexes. Enfin voilà, il y a un certain sang-froid qui va lui être utile.
Oui, on peut le dire, Hervé.
Puisque en fait, il va commettre un braquage.
Voilà.
Voilà.
Il arrive donc dans une agence de banque à Dirondack. Donc, bien sûr, il s'éloigne de son lieu d'habitation.
Ouais, il doit faire 30, 30 ou 50 bornes.
Voilà, quoi, c'est ça. Il présente un sac à la responsable de l'agence, un sac vide, à part 5 mots, là je cite Russell Banks, c'est un 5 mots tracé en majuscule au marqueur sur une feuille de papier blanc, remplir d'argent liquide, propriétaire armé. Donc voilà, mais un modèle du genre aussi dans le dans la forme, parce que c'est voilà, on joue pas du tout sur le suspense du braquage. On n'est pas vraiment surpris d'ailleurs, hein, de ce braquage, et même la forme elle dénote vraiment ce type de braquage tout aussi j'ai envie de dire spontané, enfin créé par une situation sociale très très difficile, et voilà, on passe de l'autre côté.
Oui, complètement, comme dans le exactement comme un film que j'ai vu en fin d'année dernière, qui s'appelait Comanchero, où c'était pareil, des gens dans un besoin extrême qui allaient braquer des petites agences à, je sais pas, à 20 km de chez eux. Voilà, on n'était pas Connie, ce qui est, alors il va se produire une chose, on peut le dire, parce que il y a aussi chez Russell Banks, il y a toujours aussi ce moment qui l'intéresse, qui est ce moment où les choses se dérèglent. Et là, comme ça, il reprend une situation qui avait été un de ses grands romans, qui s'appelait De beaux lendemains, pour une toute autre histoire, mais c'est comment un accident de la route va faire basculer le destin, va faire basculer l'histoire, puisque, et même si on ne raconte pas la fin, Connie va se retrouver à l'hôpital après.
On n'en dira pas plus, on laisse quand même les auditrices, les auditeurs découvrir la chute très noire.
Ah ben, c'est une véritable chute.
Oui, mais exact, très noire. En tout cas, une nouvelle que l'on verrait bien dans un recueil, une anthologie, hein, de la nouvelle noire.
Hervé. Tout à fait, dans une anthologie de la nouvelle noire, et avec ce fait que Russell Banks est aussi, et ça croise quand même depuis Jim Thompson, des grands noms du roman noir et d'autres, enfin une persistance qui est que c'est quelqu'un qui de toute façon est aussi une voix américaine assez originale depuis toujours, des paumés, des laissés pour compte, des marginaux, enfin voilà, il y a quand même, je pense effectivement à Sous le règne de Beaune par exemple, enfin bon, et d'autres livres, c'est ça, lui-même étant une espèce de prolo avec une écriture un peu avant-gardiste, oui.
Donc, Hervé, voilà. Alors, bon, nous vous conseillons, bien sûr. Alors, je sais que tu n'as pas eu le temps de lire toutes les autres nouvelles du recueil. Moi, je les ai lues. On est sur une note, comment dire, on est dans une autre dimension littéraire, moins noire, mais vraiment très, très passionnant. Vraiment un regard social, hein, justement, sur la structure familiale et ce qui peut faire que cette structure familiale parfois dérègle les choses et la vie. J'avais annoncé, hein, en introduction de cette émission, que nous évoquerions suite à l'incursion outre-Atlantique avec Russell Banks, des petites nouveautés que nous annoncent les éditions Gallmeister. Donc il y a un petit moment, c'était en fin 2016, un document de commercial des éditions Gallmeister a annoncé donc du nouveau pour leur collection de poches Totem, Lire l'Amérique, et notamment un nouveau directeur, Benjamin Guérif. Bon, ça c'est acté, on le sait, avec un certain nombre de parutions pour 2017 dont on a déjà nous-mêmes parlé, Hervé, hein, des romans d'Harry
Brown. Il y en a une d'ailleurs qu'il est intéressant de noter, c'est que va bientôt sortir Totem, va reprendre un livre assez fameux de James Cagney qui s'appelle L'assurance sur la mort, qui a donné un film un peu culte de Billy Wilder, et James Cain, c'est l'auteur du facteur sonne toujours deux fois, etc. Et ce texte, comme d'habitude chez Gallmeister, a été retraduit et il contient une postface de François Guérif.
Ah, bah voilà, le lien est fait. Alors, entre parenthèses, donc Assurance sur la mort, ne vous précipitez pas en librairie, c'est en prévu pour avril.
Voilà.
Et au même moment, d'ailleurs, parce que j'ai le programme sous les yeux, la désobéissance civile de Henri David Thoreau. Voilà. Au programme de Totem, parmi d'autres. Mais donc, tu as cité le père de Benjamin Guérif, François Guérif, donc. Un monstre, on va dire comme ça,
de
l'édition
qu'on a interviewé,
du roman noir de l'édition, donc fondateur des collections Rivage Noir, collections Rivage Thriller, et donc qui a.
Je crois me souvenir qu'un certain 1er mai, nous avions d'ailleurs fait une table ronde en public qui réunissait François Guérif et Oliver Gallmeister.
Exactement, il faudrait que, regardez, elle est peut-être encore en écoute sur le site de Radio PFM. En tout cas, Hervé, donc Guérif, hein, qui a arrêté la direction de Rivage Noir tout en continuant à collaborer pour quelques auteurs, eh bien on vient d'apprendre qu'il faisait son entrée chez Gallmeister, hein, pour proposer aussi quelques titres, toujours bien sûr littérature américaine.
Oui, à ce qu'on en sait, il d'un côté apportait des auteurs du patrimoine de la littérature américaine qui sont très chers à Gallmeister, puisque à côté par exemple de Henri David Thoreau dont tu parlais, il va proposer une nouvelle traduction du dernier des Mohicans de Fenimore Cooper.
Oui.
Fenimore Cooper qui est quand même un petit peu l'inventeur du roman de la prairie, du roman d'aventure qui débouchera ensuite sur le roman noir en fait. Donc il y aura ça. Et puis à l'autre bout, c'est-à-dire beaucoup plus près de nous, dans ce qui est également annoncé, il va publier le deuxième roman de William Boyle, qui avait été le numéro 1000 de Rivage Noir avec Gravesend, qui, une parenthèse, était un beau roman symbolisant bien l'esprit qui dure du roman noir autour d'un quartier, une enclave italienne de Brooklyn.
On peut dire, Hervé, on peut dire que, et on conclura là-dessus, que c'est quand même un beau coup éditorial pour Gallmeister de récupérer quand même François Guérif, et puis, c'est pas de le récupérer, hein, de pouvoir
non,
profiter.
Je crois pas qu'on puisse dire
non,
ça,
non, c'est pas la récupération, mais profiter, hein, justement de sa connaissance, hein, de la littérature américaine.
Je pense qu'il y a une logique dans tout cela, parce que Oliver Gallmeister s'est toujours présenté comme dans une filiation avec ce qu'a bâti pendant plusieurs décennies François Guérif, et les anime de toute façon un amour commun d'auteur de la littérature américaine. Et il est évident il me semble évident que si François Guérif comptait continuer à quand même éditer quelques livres, ce qui a toujours été sa passion, c'était là où il pouvait avoir sa place. On l'imaginait pas aller à entre guillemets la concurrence. Enfin voilà, là c'était un endroit où il y avait une place pour apporter des projets. Et à mon avis, le plaisir de chacun se nourrit, je pense là.
Alors, je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler, hein, de ces ouvrages de chez Gallmeister et aussi de
sans nul doute de Rivage. Il va y avoir des titres sur lesquels s'arrêter. Mmh. On peut dire aussi chez Gallmeister que sont sortis il y a peu de temps deux romans, et notamment qu'il continue la republication, retraduction de James Crumley.
Oui.
Puisqu'il y a eu le dernier baiser qui est, qui vient de sortir, je crois, il n'y a pas très longtemps. Et puis un nouveau venu que je n'ai pas encore eu le temps de lire, peut-être toi, mais qui s'appelle Todd Robinson.
Non, 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 mais c'est au programme. Eh bien, écoute,
qui s'appelle Une affaire d'homme. Voilà.
Voilà. Ben, on se donne ça comme programme de lecture pour les semaines à venir. Hervé, au revoir. Rendez-vous dans un mois pour de nouvelles variations en noir. Merci à toi, Hervé.
Eh bien, merci à toi. Merci à Bernard et bonne lecture à tous.
Voilà, c'était Variation en Noir sur Radio PFM dans Variation, le premier vendredi du mois, une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières et en particulier donc avec Hervé Delouche. Et oui, merci à Bernard de nous accueillir toujours aussi amicalement dans son émission, même si on déborde de notre créneau à chaque fois. En tout cas, très bonne lecture en noir à toutes et à tous.